Les journées du patrimoine, comme le disait Anne de Biran, c'est ce week-end. Des journées dont le succès ne se dément pas d'année en année et qui attirent des millions de visiteurs. Des journées qui ne susciteraient peut-être pas tout à fait le même enthousiasme si ce patrimoine culturel, architectural et artistique n'était pas soigneusement conservé, restauré. On pourrait presque dire choyé aux petits oignons grâce à des techniques scientifiques de pointe, imagerie hyperspectrale, accélérateur de particules, diffraction par rayon X, et j'en passe. Sauver le patrimoine, que peut la science ? C'est ce vaste problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour dérouler en une heure ce programme vaste, je vous le disais, nous avons le plaisir d'accueillir autour de cette table Laurence de Vigry. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes physico-chimiste au laboratoire d'archéologie moléculaire et structurale. Vous allez nous dire dans quelques instants ce que c'est que ce laboratoire. Nous sommes également avec Pierre Curie. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservateur en chef du patrimoine du musée Jacquemart-André. Et nous sommes également avec Didier Durand. Bonjour à vous.
Bonjour.
Président directeur général de la société Pierre Noël. Et représentant du groupement des entreprises de restauration des monuments historiques. Alors pour commencer cette discussion, j'ai envie de vous poser une question un peu simple pour débuter. Quel est selon vous, selon chacun d'entre vous, un modèle de restauration ou de conservation d'une œuvre ou d'un bâtiment récemment qui n'aurait pas été possible sans l'apport de nouvelles techniques scientifiques ou qui vous paraît exemplaire ? Laurence de Vigry, à vous la parole pour commencer.
Merci. Effectivement, moi, je vais tout de suite penser à la restauration des œuvres de Léonard de Vinci au Louvre. Soit qu'elles soient exemplaires, soit qu'effectivement, elles ont été permises et elles sont permises par le travail conjoint de restaurateurs et de scientifiques qui vont développer et mettre au point des nouvelles techniques.
Pierre Curie.
Alors, je partage ce goût pour Léonard de Laurence, mais je pense qu'actuellement, la restauration la plus complexe et celle où ce dialogue scientifique-restaurateur est peut-être le plus riche, c'est la restauration de l'atelier de Courbet, grand chef-d'œuvre du musée d'Orsay, peinture extrêmement compliquée parce que Courbet l'a reprise lui-même plusieurs fois, que de très nombreuses interventions l'ont altérée au cours des années. Et donc l'investigation de l'œuvre est en parallèle avec le nettoyage et la purification de la couche picturale, de la restauration. Et donc je trouve que c'est une opération très ambitieuse et très importante actuelle.
Et qui marque aussi quelque chose, on en reparlera tout à l'heure, un précédent, c'est que c'est une restauration qui se passe en public, c'est-à-dire que la restauration elle-même est une œuvre en tant que telle, on l'évoquera tout à l'heure. Didier Durand, selon vous ?
Pour moi, les deux collègues qui participent à cette table ont la chance de pouvoir restaurer le cœur à l'intérieur, et nous, en tant qu'entreprise de la restauration des monuments historiques, on restaure le corps, la partie externe.
C'est un beau programme aussi.
Et c'est un joli programme, parce que sans cette restauration à l'extérieur, le cœur n'arrêterait de battre. Mais on a besoin effectivement de tous, et c'est très important de pouvoir faire effectivement un lien, et on ne peut que nous vous remercier de nous avoir invités. Pour moi, deux côtés emblématiques, le Louvre, parce que le Louvre est quand même au niveau de la restauration, et aujourd'hui le Louvre a continué sa restauration par le pavillon Marsan, donc la pierre, le plomb, les menuiseries, la ferronnerie, et puis le côté emblématique qui se lance, c'est aussi le palais d'Iéna, restauration des bétons avec Auguste Perret, et je crois que ça c'est aussi un développement, et sans les techniques, sans l'apport des scientifiques, aujourd'hui on serait presque tenté à dire n'y touchons pas, on ne sait pas comment faire, mais bien au contraire, on a pu faire évoluer cette restauration, donc en passant du Louvre pierre, et aujourd'hui en béton, nous formons nos plus de 10 000 compagnons sur le terrain, et je crois que c'est ça qui est important, grâce au cœur, mais aussi à l'enveloppe.
Mmh. Puis on en parlera également tout à l'heure, Didier Durand, c'est intéressant ce que vous soulevez, puisqu'évidemment quand on pense restauration des bâtiments, on pense à la vieille pierre, pardonnez-moi l'expression, mais il faut aussi commencer, et on peut en parler ici à la Maison de la Radio, à restaurer des bâtiments récents, modernes, qui sont faits dans d'autres matériaux, et ça pose effectivement des questions qu'on abordera tout à l'heure. Mais avant de se lancer dans ces questions techniques, mettons-nous donc d'accord, si vous le voulez bien, sur la terminologie, hein, puisque restaurer, conserver, tout ça n'est pas exactement synonyme, ça n'est pas tout à fait la même chose. À partir, peut-être Pierre Curie, vous pouvez nous expliquer les différentes étapes qu'il peut y avoir entre la conservation d'un patrimoine et la restauration d'un patrimoine.
Alors aujourd'hui, on considère plutôt que la conservation, qu'on appelle d'ailleurs souvent conservation préventive, consiste à mettre un objet culturel dans des conditions, ou lui préserver des conditions, qui vont permettre de maintenir son état de conservation le plus stable possible. Donc ça peut être des conditions climatiques, dans des réserves, ça peut être des recherches sur la lumière, ça concerne plutôt l'environnement de l'œuvre, quelle soit sa nature d'ailleurs. Et ça peut aller aussi jusqu'à sa présentation, son encadrement, sa protection par des... C'est toutes ces mesures qui vont retarder en fait le vieillissement de l'œuvre, puisque de toute façon, les matériaux vieillissent et s'altèrent naturellement. La restauration, si l'on prend la racine du mot restaurare, c'est remettre à sa place. C'est-à-dire, les théoriciens italiens de l'après-guerre ont assez bien défini cette unité potentielle de l'œuvre d'art, qui est parfois altérée par le temps, par les interventions humaines ou tout simplement le vieillissement naturel des éléments qui constituent l'œuvre d'art, qu'ils soient architecturales, sculpturales, peintures, etc., mais à laquelle on peut redonner une certaine unité par une intervention, qu'elle soit de purification ou de complément, ce qu'on appelle la réintégration.
À partir de quel point, Laurence de Vigry, je me retourne vers vous, à partir de quel point, de quel moment est-ce qu'il est décidé d'intervenir sur une œuvre? Est-ce qu'il y a une sorte de marqueur universel?
Je pense que ça vient plus d'une concertation des spécialistes qui vont s'interroger sur l'œuvre est-elle en danger actuellement? Est-ce que le processus de restauration va permettre de restituer, de rendre quelque chose à l'œuvre? Et est-ce qu'il est nécessaire? Est-ce qu'il faut réellement intervenir sur l'œuvre? Je pense que c'est à chaque fois une balance entre le bien que l'on peut faire et les risques de toute restauration.
C'est ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je m'adressais à vous, c'est cette question d'œuvre en danger. On imagine qu'on restaure des œuvres qui sont très, très abîmées ou sur lesquelles le passage du temps est très manifeste. Or, ça n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on intervient en amont des dégradations ou de dégradations qui seraient des dégradations irréversibles.
Alors pas forcément, on intervient aussi sur des œuvres, et notamment les œuvres contemporaines ou modernes en tout cas, où les artistes font moins attention aux matériaux qu'ils utilisent. Et on assiste vraiment à des vrais problèmes de conservation, de dégradation très importants, même du temps de la vie de l'artiste.
Didier Durand, dans le bâti, vous êtes confronté aussi à cette différenciation entre conservation et restauration?
Oui, enfin, on est essentiellement, pour une grosse partie, confronté. On a beaucoup de monuments. On pourrait en restaurer beaucoup plus, on pourrait en conserver beaucoup plus. Vous m'excuserez, mais c'est un problème de moyens. Hein, si vous avez plus de moyens,
tout le monde opine.
On est tous d'accord. Moi, si vous nous donnez plus de moyens, on peut faire la restauration. Et surtout, ce qui est important, c'est que tous nos compagnons, on met essentiellement 10 ans à former un compagnon. Donc, il faut qu'on puisse avoir, comme pour vous, les conservateurs et les scientifiques, il faut avoir effectivement un plan devant. Si on forme une centaine de compagnons, il faut avoir du travail pour ces 100 compagnons. C'est un savoir-faire. On a énormément de... Ce ne serait-ce que sur Paris, il y a quand même plus de 100 monuments qui appartiennent à la ville de Paris. Avec le CMN, il y a aussi énormément de bâtiments, le Centre des Monuments Nationaux. Donc, à partir de... Si on a de l'argent, on peut effectivement faire... alors, pas une ville-musée, hein, ni une France-musée. Il faut faire vivre et il faut effectivement redonner à nos concitoyens la possibilité d'acquérir cette possibilité de rentrer dans le monument.
Alors, le jeudi, usuellement, dans la méthode scientifique, c'est la case dévolue à l'histoire des sciences, mais on va faire, une fois n'est pas coutume, un peu d'histoire de l'art avec vous, Pierre Curie. À quel moment la science se mêle de la conservation du patrimoine? À quel moment la restauration fait appel à des techniques scientifiques?
Alors, je dirais qu'il y a des niveaux relativement simples d'altération qu'on connaît bien, qui sont des cas tout à fait banals, courants d'intervention. En revanche, par exemple, sur un tableau aussi complexe que celui que j'ai cité tout à l'heure, l'atelier du peintre de Courbet, l'œil ne suffit pas. La connaissance, culturelle et visuelle de l'œuvre est loin d'être suffisante. Il faut vraiment faire des investigations en imagerie, en analyse, en stratigraphie et autres moyens pour vraiment comprendre les causes de l'altération.
Mais dans l'histoire de l'art, je veux dire plutôt historiquement parlant, à partir de quel moment on commence à penser la restauration et la conservation des œuvres la science, je veux dire. À quel moment la science commence à avoir un rôle là-dedans?
Pratiquement, enfin, la science moderne, c'est dans les années 30 que au Louvre, un atelier est créé avec les premières radiographies et des investigations, disons, d'imagerie véritablement scientifique. Mais dès le XVIIIe siècle, en fait, les peintres qui étaient chargés de la restauration des œuvres d'art s'intéressent aux solvants, à ce qu'ils peuvent utiliser, ils écrivent des recettes. Alors, là, c'est une science très empirique qui procède par tâtonnement et par connaissance culturelle des événements qui peuvent se passer sur une couche picturale. Mais on peut quand même dater ces investigations scientifiques du XVIIIe siècle.
Et puis, il y a évidemment l'évolution, les avancées des sciences. Pasteur a largement contribué à la restauration, ou en tout cas à l'avancée des travaux scientifiques. Il voulait, je vais le citer, il voulait réconcilier les artistes et les chimistes. Il disait, il y a des circonstances où je vois clairement l'alliance possible et désirable de la science et de l'art, et où le chimiste et le physicien peuvent prendre place auprès de vous et vous éclairer. Il écrivait ça dans des notes pour des leçons de physique et de chimie appliquées aux beaux-arts, dans une leçon du 6 mars 1865. Donc pour vous, Laurence de Vigré, Pasteur, c'est la première avancée, la première incursion véritablement scientifique dans le travail de restauration et de conservation du patrimoine artistique.
Oui, c'est effectivement au 19e siècle que beaucoup de scientifiques, enfin certains scientifiques en France en tout cas, commencé à vraiment s'intéresser à la matière ou à l'histoire matérielle des œuvres. Donc Pasteur en est un, Marcellin Berthelot aussi, qui a analysé des œuvres qui revenaient d'une campagne en Égypte. Et on a donc tous ces scientifiques qui commencent à s'intéresser et à prendre part à l'étude, à la conservation des œuvres. Et puis après, effectivement, c'est avec l'arrivée des rayons X, avec la découverte des rayons X et de toutes les potentialités qu'on a pu découvrir à partir des rayons X et de la radiographie sur les œuvres.
Très tôt, les rayons X d'ailleurs, pardon de vous interrompre, on se sert tout de suite des rayons X pour l'archéologie.
Oui, c'est très rapidement. Je crois que c'est pendant la Première Guerre mondiale où il y avait un camion avec un système de radiographie qui permettait d'étudier les patients, d'analyser les patients. Et en parallèle, ils analysaient des œuvres d'art. Donc c'est ce premier type d'application qui a donné naissance après au laboratoire du Louvre.
Médecine et restauration parallèle sur un camion de rayon X. Est-ce qu'on pourrait, ce sera ma dernière question avant d'entendre le reportage dans le laboratoire du Louvre, est-ce qu'on pourrait, selon vous, vous qui travaillez dans des secteurs et dans des domaines différents, parler d'une forme de méthode scientifique, puisque c'est l'idée de l'émission, qui serait commune à tout type d'actes de conservation, Pierre Curie?
Pas vraiment, parce que chaque œuvre requiert des moyens différents, en fait, d'intervention, des diagnostics différents. Vous parliez et Laurence, très justement, de ce parallèle avec la médecine. La restauration est très, très proche de la médecine, en fait. Et il n'y a jamais de diagnostic systématique, de maladies systématiques et de remèdes systématiques. Il y a surtout des patients qui sont différents les uns des autres. Je dirais qu'en effet, la grande époque de cette conjonction des sciences et de la restauration, c'est quand même le 19e siècle et le 20e siècle qui a suivi, c'était grand temps, parce que les restaurateurs souvent étaient des artistes, même jusque dans l'après-guerre, au musée du Louvre, et avaient des méthodes complètement empiriques. Je ne veux pas dire qu'ils ont fait beaucoup de dégâts, mais souvent ils ont avancé dans leurs travaux avec vraiment à tâtons. Avec les méthodes scientifiques, on a pu quand même y voir plus clair, et notamment sur les nettoyages et les solvants.
Didier Durand.
Oui, alors je vous rejoins. Pour nous, c'est beaucoup d'études.
il faut, avant de se lancer, parce qu'on sait pertinemment qu'une mauvaise restauration, c'est terminé. C'est-à-dire qu'on, il faut la réflexion, il faut de l'étude et il faut de la concertation. On n'est pas tout seul à prendre une décision. Et pour nous qui, on a nos architectes en chef, on a les inspecteurs généraux, on a les laboratoires, on a toute une équipe, et je pense que c'est important pour ne pas faire d'erreur.
C'est du diagnostic, hein, pour rejoindre
c'est la base du diagnostic, mais on est complètement. Vous savez, quand je vous parlais tout à l'heure du corps et du cœur, on est effectivement dans l'esprit. On veut tous vivre le plus longtemps possible.
C'est le thème de notre émission de lundi.
Un monument ou une œuvre, c'est la même chose. Et je crois qu'il y a aussi ce que j'appelle le bon sens. Donc pour vous, les scientifiques, c'est peut-être beaucoup plus facile. Pour nous, il faut qu'on fasse passer le message à nos compagnons qu'éventuellement un mauvais geste peut être irréversible. Donc il faut faire prendre conscience et c'est notre job.
Laurence de Vigry, sur cette méthode scientifique universelle à tout acte de conservation ou de restauration.
Je rejoins effectivement Pierre Curie quand il dit qu'on ne peut pas appliquer de méthode à tous les types de supports et tous les... je dirais plutôt qu'on a en termes d'analyse scientifique une démarche qui va aller de l'observation. D'abord, il faut passer du temps pour regarder l'œuvre et observation à l'œil nu et puis sous différents rayonnements de l'imagerie. Et ensuite, on va pouvoir faire des analyses scientifiques qui vont avoir un sens et qui vont nous permettre de dire quelque chose d'intéressant pour la restauration, pour la conservation.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Eh bien, après avoir posé un diagnostic de ces méthodes de conservation et de restauration, on va passer aux exercices pratiques avec le reportage quotidien de la méthode scientifique. Bonjour Céline Lozen.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Alors, pas de passage à Orsay aujourd'hui, hein, déception.
Non, moi, non.
Vous en avez profité pour aller faire un petit tour au Louvre, Céline.
Oui, je me suis offert une petite excursion très agréable, mais pas vraiment pour visiter une exposition. Je pense à celle de Aimé Bouchardon, le sculpteur de Louis XIV qui vient d'ouvrir hier au Louvre. Je suis allée dans les sous-sols du musée qui héberge le Centre de Recherche et de Rénovation des Musées de France, le C2RMF. C'est d'ailleurs ici, Laurence, que vous avez fait votre thèse. Alors moi, je ne connaissais pas du tout. Il faut dire que son entrée est assez bien cachée des touristes.
Mais vous l'avez trouvée quand même, Céline, puisque vous êtes notre enquêtrice. Et c'est dans ces sous-sols qu'on restaure donc, ce qu'on disait tout à l'heure, les tableaux, les pièces archéologiques.
Oui, exactement. En fait, au C2RMF, vous l'entendrez dans ce reportage, il y a une partie recherche où on analyse les œuvres et une partie conservation et restauration. Et ce centre travaille pour plus de 1000 musées en France.
Et on va dire la vérité à nos invités, Céline, tout cet étalage de science, eh bien, ça vous a fait rêver.
Alors moi, personnellement, ce ne sont pas les œuvres d'art, mais plutôt les laboratoires, effectivement, comme vous le dites.
Chacun son truc.
Les techniques scientifiques, c'est vrai qu'ils m'ont émerveillé. Il faut s'imaginer quand même, le C2RMF, c'est 160 personnes sur plus de 5000 mètres carrés de laboratoire sur 3 sites. Moi, je suis allée au Louvre, où Sophie Lefebvre, responsable de la communication, m'a amenée dans les arcanes du site pour rencontrer ces sauveurs du patrimoine.
On l'écoute.
Nous descendons donc dans la partie strictement laboratoire, qui est située à moins 15 mètres dans les sous-sols. Et en bas, nous allons voir Benoît Mille, qui nous attend en métallurgie.
Je suis archéométallurgiste, et dans ce laboratoire, on analyse plus spécifiquement la composition élémentaire du métal. Un de nos programmes de recherche très actifs, c'est un programme qui s'intéresse aux grands bronzes de l'Antiquité grecque et romaine. Mais souvent, l'histoire de la statue est tellement complexe, si c'est un naufrage par exemple, que ça ne nous renseigne pas du tout sur le lieu et la date de la fabrication de la statue. Et c'est ça pour nous, et pour les conservateurs des musées, qui est l'information la plus intéressante à essayer de reconstituer. Pour faire les analyses élémentaires, on utilise un spectromètre d'émission atomique. Donc là, c'est le passeur automatique d'échantillons qui se déplace pour aller aspirer les solutions qui contiennent les échantillons de la pommade de Piombino, qui sont ensuite aspirés pour être injectés dans le plasma d'argon. Et c'est grâce à ce plasma d'argon qu'on déterminera la composition chimique élémentaire du métal qui compose la statue.
Nous allons retrouver Yvan Coquineau, qui nous attend au microscope électronique à balayage.
Bonjour. Je suis géologue, je travaille au C2RMF sur tous les matériaux pierre, donc la sculpture bien entendu, et les matériaux céramiques. Ici, donc, vous avez une inclusion qu'on voit très bien donc, au microscope électronique, qui fait seulement 30 micromètres de largeur, donc vraiment très petite, et nous pouvons faire l'analyse en fait, chimique élémentaire de cette inclusion. Et ici, donc, nous pouvons voir en fait, sur cette image et sur les spectres que l'inclusion contient un certain nombre d'éléments chimiques tels que l'arsenic, le bismuth, le nickel, le cobalt, qui sont en fait des indicateurs en fait de la nature et de l'origine du pigment.
Et là, typiquement, sur cette image, vous pouvez détecter des états d'altération.
Oui, on peut effectivement, notamment pour la glaçure, on peut voir si la glaçure est altérée et à quel point elle est altérée. Si donc il sera nécessaire de la consolider pour pouvoir préserver l'objet, pour éviter qu'il se dégrade plus dans l'avenir.
Là, nous dirigeons vers le pavillon de flore qui est sur le Palais du Louvre et nous allons rencontrer un conservateur et historien d'art qui s'appelle Mathieu Gilles. Nous partageons une entrée commune. À gauche, vous avez l'école du Louvre et à droite, la partie restauration. Vous avez une entité très vivante et très complémentaire. Vous avez l'enseignement, la recherche et la restauration. Nous sommes sur des sites très sécurisés et donc nous n'avons que des accès par badge.
Bonjour. Je suis Mathieu Gilles, responsable de la filière peinture au sein du département restauration. Donc là, vous avez la tabagie de Lenain, qui est un tableau du musée du Louvre et sur lequel des essais de nettoyage doivent être présentés au conservateur du département des peintures. Donc là, on est dans une phase qui est le début du nettoyage. On va alléger le vernis qui, vous voyez, a blanchi, s'est altéré, et la restauratrice a fait 3 essais pour valider, on va dire, le niveau de nettoyage qui est proposé au conservateur du Louvre. Alors vous avez des équipements également que vous voyez ici, des loupes binoculaires qui permettent aux restaurateurs de travailler la matière en ayant une très bonne vision. Ce sont comme des sortes de microscopes si vous voulez. C'est un peu comme une opération chirurgicale la restauration, bon, toute proportion gardée évidemment, mais plus vous avez des outils performants, plus vous effectuez un geste qui sera précis et le moins invasif possible. Et là-bas, il travaille dans l'atelier support, donc principalement, je pense, sur des toiles ce matin. On avait un tableau attribué à Bellotto du musée Jacques Marandré qui est dans l'atelier suivant, qui est, lui, en fin de nettoyage. Et donc, il va être dans la réintégration, va commencer. On va aller le voir tout de suite. Voilà, c'est ce tableau-ci. Alors, je ne sais pas où on peut se mettre parce que là, il y a sans doute un tableau ici. Attention, on va se pousser.
On passe l'aspirateur sur les œuvres.
Là, ce n'est pas une œuvre, je pense que c'est une planche entre un support intermédiaire entre deux tableaux. Là, il n'y a pas de tableau dessus, mais il va bientôt y en avoir un. Le fait d'alléger le vernis et d'enlever les repeints permet d'apprécier le tableau beaucoup mieux parce que les vernis aplatissent les plans quand ils jaunissent et les repeints évidemment cachent la couche picturale originale. En restauration, on cherche à retrouver l'état original de l'œuvre, mais évidemment c'est un objectif qu'on ne peut jamais atteindre. L'état d'origine de l'œuvre, il a disparu en général depuis des siècles, mais on essaye de s'en rapprocher quand même en atténuant les traces laissées par le temps pour qu'elles ne nous empêchent pas d'apprécier l'œuvre elle-même.
Voilà le reportage de Céline Lozen au C2RMF, le laboratoire du Louvre. C'est un peu chez vous, Laurence de Vigry. Dites-moi, c'est Alcatraz, hein ?
Oui, effectivement, c'est une forteresse.
Une réaction à ce qu'on vient d'entendre, à l'extrême, on entend hein, l'extrême précision scientifique qu'a acquise aujourd'hui toute œuvre, tout travail de restauration du patrimoine. Selon vous, la dernière avancée majeure en termes de restauration dans ce qu'on vient d'entendre, celle qui a été la plus importante pour vous, qui vous a permis d'aller le plus loin, ou là ? Dites-moi, Laurence de Vigry.
avancée majeure en termes de restauration. Moi, je pense,
en termes techniques, hein, en termes d'outillage technique.
D'outils, alors je vois par rapport aux surfaces peintes et aux peintures, je pense en tant que chimiste à l'arrivée des gels pour la restauration, alors avec encore des limites, mais qui permet quand même d'éviter la diffusion des solvants trop profondément dans les couches picturales. Après, chaque restaurateur va avoir son savoir-faire et son mode d'utilisation. Mmh. Mais pour moi, en chimie, c'est une des avancées importantes.
Mmh. Laurence parle de restauration. Moi, je vais parler d'investigation scientifique pour inverser les rôles. Mmh. Moi, je trouve que ce qui a été formidable dans l'aventure Léonard de Vinci, et ça l'est encore, puisque je crois que cette technique est toujours utilisée, c'est pour la première fois, on a pu mesurer des épaisseurs de vernis. Alors c'est encore très difficile à faire parce qu'il faut un tableau très lisse, il faut une absence totale de vibration, il faut quand même un certain nombre de conditions pour réussir à faire ces mesures qui sont au micron près. Mais on arrive en quelque sorte à faire des nuages statistiques de mesures d'épaisseur de vernis qui nous permettent de voir et de quantifier les quantités de vernis qui sont enlevées lors d'un allègement. Alors, ça n'est pas réalisable sur n'importe quel tableau, notamment une toile, c'est trop grenu, c'est trop irrégulier. Mais sur plusieurs tableaux de Léonard de Vinci, ça a donné quand même des résultats assez parlants.
Si je peux compléter, c'était Laurent effectivement, je n'osais pas en parler, mais c'était un des buts de ma thèse. Donc effectivement, d'utiliser une méthode scientifique, donc la fluorescence des rayons X, pour avoir non seulement une indication sur la composition des pigments, ce qu'on avait depuis longtemps, mais aussi sur les épaisseurs de couches, et notamment ces couches de vernis et éventuellement les couches de glacis utilisées par Léonard de Vinci.
Puisqu'il faut préciser ce que vous évoquiez à l'instant, Pierre Curie, c'est que les Léonard de Vinci peignait sur des panneaux et donc pas sur des toiles, ce qui rend plus facile cette...
C'est très lisse.
Voilà, c'est très lisse. Oui, Didier Durand, ce qui est intéressant, je voulais vous relancer sur ce que vient de dire Laurence de Vigry. Ce qui est intéressant, c'est de dire qu'on est, et ça va tomber en plein dans ce qui est votre pratique professionnelle, entre le savoir-faire de chacun des corps de métier et une extrême précision et une extrême spécialisation scientifique. C'est-à-dire qu'on est exactement dans ce topos qu'on aime tellement à France Culture, entre tradition et modernité.
Vous avez absolument raison. Je voudrais simplement, je suis un petit peu un béotien parce que j'ai en face de moi presque deux scientifiques. Vous savez, nous, on est ce qu'on appelle des pierreux, on est des hommes de terrain et j'aimerais simplement savoir, là je poserai peut-être une question, mais il n'y a que nous, Français, qui pouvons effectivement je veux pas faire du chauvinisme, mais je voudrais simplement que par moment, il est important de reconnaître que nous, en France, on a un savoir-faire et que ce savoir-faire, on peut éventuellement aller le vendre ailleurs et qu'on n'ose pas le faire. Et en ce qui nous concerne, nos entreprises de taille de pierre, de charpente, de couverture, de restauration de peinture, on doit aussi expliquer qu'on... Tout a un prix, que tous nos compagnons sont formés, mais qu'on peut aller aussi restaurer d'autres œuvres. Et ça, c'est important. On ne le dit pas suffisamment, vous m'excuserez, mais c'est tellement d'une évidence qu'il faut le redire.
Alors avant de laisser répondre Laurence de Vigry et Pierre Curie, je voudrais ajouter quand même Didier Durand, vous dites que vous êtes des pierreux. En attendant, dans vos techniques de restauration sur la pierre, sur l'acier, vous faites aussi usage de méthodes de pointe dont vous allez nous parler tout à l'heure.
Mais ce n'est pas péjoratif d'être pierreux. Mais le pierreux, vous savez, moi, je dis souvent, je taille le caillou. Parce que c'est ça la base. Le caillou, il est dans. On retire de la terre et on tombe sur nos pierres qui sont à l'intérieur. Donc c'est pas du tout péjoratif de dire on taille le caillou, on va tailler le morceau de bois. On est aujourd'hui 21e siècle et on nous parle de attention. Il faut. On n'a que des matériaux naturels. La pierre, la chaux. L'ardoise, malheureusement, on en reparlera tout à l'heure, mais je crois que ça, c'est la base essentielle. Mmh. Alors après, on peut mettre un peu de pigment, on peut mettre un peu de peinture, mais c'est les matériaux qui sont naturels.
Mmh. Alors, question légitime de Didier Durand, ce savoir-faire-là, cette technicité, elle est très française, c'est un savoir-faire qui est... connu des équipes de restauration françaises au niveau mondial, Laurence de Vigry ?
Au niveau des équipes de restauration, moi, je ne suis pas bien qualifiée pour répondre à la question.
Si je peux prendre le relais, moi, je fais partie de ceux qui contestent un peu cette vision des choses, d'un savoir-faire ou d'une restauration à la française. En tout cas, dans mon domaine de la peinture, j'ai bien fréquenté longuement l'atelier de restauration du Louvre, où travaillaient en effet quelques Françaises, et puis des Italiennes, une Hollandaise, deux Allemandes, une Polonaise et même une Brésilienne.
Un métier, alors, des métiers très féminins.
Restauration à la française, si l'on veut que ce soit la synthèse de toutes ces de tous ces savoir-faire, je suis d'accord. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que dans le domaine de la science, c'est très ancien, cette communication entre les scientifiques des différents pays, à travers des colloques, à travers des rencontres, ça s'est institué petit à petit aussi dans la restauration. Je ne dirais pas ça il y a 50 ans. Il y avait vraiment des écoles rivales, l'Angleterre contre la France, ou que sais-je, ou les États-Unis, toujours à part. Aujourd'hui, vraiment, les grandes restaurations sont suivies par des comités scientifiques. Ainsi, par exemple, l'atelier de Courbet, j'y reviens toujours. Mm-hmm. Mais aussi au Louvre, les grands tableaux italiens font l'objet de commissions, Titien, Léonard de Vinci, commissions dans lesquelles on trouve des Anglais, des Allemands, des Autrichiens, des Italiens, bien sûr. Il y a d'excellents laboratoires dans tous ces pays, notamment par exemple à Florence, à Rome, à Londres aussi. Londres a développé par exemple avant tout le monde la réflectographie infrarouge. Maintenant tout le monde en fait, c'est formidable, c'est une méthode d'investigation géniale. Bon ben voilà. Et on communique en permanence, on échange, on va voir les travaux des uns et des autres. Donc il y a une certaine internationalisation quand même du savoir et du savoir-faire.
Pour dire un dernier mot et pour revenir un peu à la science de ce laboratoire du Louvre, préciser aux auditeurs, même si il ne fonctionne pas en ce moment parce qu'il est lui aussi en restauration, vous avez un accélérateur de particules.
Effectivement, le C2RMF a un accélérateur de particules à Glay.
Très joli nom pour un accélérateur de particules.
Qui a pour but d'analyser les œuvres.
Qu'est-ce qui permet précisément, Laurence de Vigry, cet accélérateur de particules? Qu'est-ce
qui vous permet d'analyser la composition élémentaire d'une peinture, ou plutôt sur des objets métalliques ou des céramiques, de façon qualitative mais aussi quantitative, d'être très précis. Et c'est quelque chose qui permet de le faire in situ, ce qui est important. On n'est pas obligé de faire un prélèvement, mais on peut analyser l'œuvre directement sur place.
Alors c'est intéressant, je voulais aussi en parler avec vous, c'est que l'un des problèmes que pose la restauration d'œuvres d'art, c'est souvent le transport de ces œuvres. Transporter une œuvre, ça coûte cher, c'est compliqué, c'est dangereux, bref. Et pour ça, vous avez notamment, vous, travaillé, Laurence de Vigry, sur un nouvel outil qui est le laboratoire portable. C'est-à-dire que maintenant, on ne déplace plus les œuvres, c'est la science qui va jusqu'aux œuvres pour faire de l'analyse non intrusive, c'est-à-dire sans prélèvement, sans gratter.
Tout à fait. Effectivement, le laboratoire dans lequel je travaille actuellement, donc le LAMS, Laboratoire d'archéologie moléculaire et structurale, développe un laboratoire mobile, donc un ensemble d'équipements qui vont permettre de se déplacer sur site, donc soit des sites archéologiques, soit des musées, des grottes, des temples, tout type de monuments dans lesquels on va avoir des œuvres à analyser, pour vraiment que les scientifiques et les instruments se déplacent et non pas les œuvres, ce qui est toujours un problème de conservation.
Et de coût.
Voilà, bien sûr. Et par exemple, vous l'avez transporté où, ce laboratoire, récemment, dites-nous, Laurence de Vigry?
Alors, un exemple, cet été, effectivement, j'étais dans le nord de l'Inde, donc dans l'Himalaya, au Ladakh, où là, j'avais deux instruments portables, les plus légers et petits du laboratoire.
Qui sont quoi?
Donc, une fluorescence X et un spectromètre dans le visible. Donc, il va mesurer le spectre de réflectance dans le visible pour avoir une information sur la nature des pigments utilisés. Et alors sinon, plus couramment, on se déplace beaucoup dans les musées européens, donc là avec effectivement différents instruments du laboratoire pour permettre soit de l'imagerie des œuvres, soit des analyses ponctuelles.
T'as changé de physionomie, tes rues sont calmes et tes taxis sont à la retraite. Dans l'avenue du bois, les femmes avec leurs souliers de bois, quand elles marchent sur les pavés de bois, font des claquettes. Et ton ciel est toujours aussi léger. Pour moi, ton cœur n'a pas changé. Pour le voir, il suffit, je crois, de regarder autour de soi. La tour Eiffel est toujours là. Bonjour la tour, bonjour, bonjour Paris. Il y a des pigeons sur l'opéra. Et il y a toujours deux tours à Notre-Dame. La Seine est encore dans son lit. Et le pont neuf n'a pas vieilli. Sur les bancs du Luxembourg, on fait toujours des serments d'amour. Il y a l'histoire, mesdames, la tour Eiffel est là.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Oui, 16h35 sur France Culture. On parle de patrimoine dans la méthode scientifique et on fait patrimoine musical aussi, puisque vous aurez reconnu évidemment Miss Tinguette, la Tour Eiffel. C'était le choix musical patrimonial de notre réalisatrice Elisabeth Miro. Et nous allons poursuivre notre conversation après avoir parlé beaucoup du laboratoire de restauration et de conservation du Louvre avec Laurence de Vigry, qui est physico-chimiste au LAMS, le laboratoire d'archéologie moléculaire et structurale, avec Pierre Curie, conservateur au chef du patrimoine du musée Jacques Marandré, et Didier Durand, PDG de la société Pierre Noël, spécialisée de la restauration dans la restauration du patrimoine et représentant, j'en aurais fini après ça, du groupement des entreprises de restauration des monuments historiques. Voilà pour nos invités. Je voulais parler avec vous un peu de ces questions, Didier Durand, de restauration du bâti. On a entendu la palette d'instruments qui est utilisée dans les laboratoires du Louvre, des accélérateurs de particules, de l'imagerie par spectrométrie de fluorescence X. Quelles seraient, selon vous, dans votre pratique professionnelle, les dernières avancées scientifiques, technologiques qui vous ont permis d'aller un cran plus loin dans votre travail de conservation et de restauration du patrimoine bâti ?
Alors, essentiellement, aujourd'hui, dans la restauration du patrimoine, on intervient avec justement des laboratoires. On ne refait pas un enduit si on n'a pas fait un prélèvement pour bien connaître les liants, pour bien connaître les mortiers, pour bien savoir. Donc il y a toute une notion d'analyse et de pouvoir repartir sur les mêmes bases. Vous m'excuserez, mais on ne va pas chez un marchand de produits prendre du prêt à l'emploi. Il faut impérativement repartir sur les bons matériaux, et pour ça, il faut avoir cette connaissance. Et là, on fait appel au laboratoire, parce que nous ne sommes pas des scientifiques, pour pouvoir définir les matériaux, pour pouvoir définir les bois qu'il peut y avoir. Ça, c'est important qu'on travaille. On travaille en équipe. Hein. Je crois que on n'est pas les uns contre les autres, on est une équipe. Et je suis vraiment très, très content aujourd'hui de voir que le corps scientifique peut venir en aide aussi au patrimoine, et ensuite on exécute.
Néanmoins, depuis quelques années, on le disait au tout début de l'émission, a priori on imagine ce travail de restauration des monuments historiques sur de la vieille pierre, mais vous travaillez aussi sur des matériaux moderne, contemporain, effectivement, sur des aciers, j'imagine, sur peut-être des matières plastiques. Enfin, votre métier évolue et est obligé de s'adapter avec l'évolution architecturale. Alors, de ces dernières années,
On évolue, on forme, on essaye de regarder. Quand on parle effectivement aujourd'hui de la restauration des bétons, Auguste Perret,
Oui, vous parliez du Palais de Iéna.
Du Palais de Iéna, mais on a aussi, par exemple, tout le Havre, on a sur Auguste Perret. Il n'y a pas qu'Auguste Perret, on a aussi le Corbusier, qui nous ont laissé effectivement des monuments et des bâtiments importants, emblématiques. Et il faut essayer de comprendre, parce qu'on était tous persuadés, il y a tout juste 80 ans, quand le béton est sorti, on était persuadés que le béton, c'était
fabuleux.
Que ça bougerait jamais.
Ça bougerait pas, que ça serait hydrofuge, que, mais c'était relax. Bon, et malheureusement, c'est pas tout à fait la vie. Il y a eu quelques petites erreurs qui ont été faites, mais pas forcément au monument historique avec l'amiante. Il pourra y en avoir d'autres, qui malheureusement ont... Donc c'est important de pouvoir se servir, et de se dire attention. Ne faisons pas telle et telle erreur. On a vu sur Paris dernièrement arriver les poussières de plomb liées effectivement aux émanations de nos chères et tendres voitures. Mais il n'y a pas que les voitures, il y a toute une pollution. Donc comment peut-on traiter les poussières de plomb? Donc le GMH, donc nous sommes aussi...
Le groupement des monuments historiques.
Le groupement des monuments historiques, plus connu sous le terme du GMH. Mais on fait effectivement des commissions pour pouvoir travailler avec des scientifiques, pour pouvoir travailler avec des laboratoires et éventuellement de se dire comment peut-on faire pour ne pas polluer et polluer aussi nos compagnons. Parce qu'il est évident, il y a l'œuvre, mais il y a aussi les personnes qui vont restaurer.
Nous avons les mêmes problèmes avec les solvants.
Pierre
Curie. Voilà, c'est exactement la même problématique avec les solvants qui sont utilisés par les restauratrices de peinture, par exemple, qui peuvent être très volatiles et toxiques. Et donc, il y a aussi des recherches de nouvelles méthodes de nettoyage. Laurence parlait
nouvelles molécules.
De l'utilisation des gels qui sont beaucoup moins volatiles et beaucoup moins dangereux pour les gens qui les manipulent.
Je voudrais vous faire un bond dans le temps, moi aussi, à ma façon. Alors, non pas en révélant les sous-couches d'un tableau ou de ce studio de la Maison de la Radio, je ne m'y aventurerai pas, mais en réécoutant une archive de 1995 grâce à notre partenaire le CNRS Images. Ça se passe au laboratoire de conservation et de restauration du Centre de Recherche Archéologique de Draguignan. William Mouret et Jacques Rebière effectuent la restauration d'une statuette d'Osiris qui date de la 25e ou 26e dynastie, on n'est pas sûr.
Alors en fait, la surface de l'objet est entièrement recouverte de produits de corrosion qui en masquent de nombreux détails. Et actuellement, l'étape de notre travail consiste à retirer très patiemment cette corrosion avec de petits outils qui sont les mêmes que ceux qu'emploient les chirurgiens ou les dentistes, donc des scalpels de formes différentes, des tourets qui peuvent tourner de 15 à 300 000 tours à la minute. Et bien entendu, ce travail très long, très minutieux, doit parfois se faire avec l'aide de différentes loupes. Et ce n'est qu'après ce travail-là que nous pourrons révéler tous les détails de la surface et poursuivre le travail en défaisant les restaurations antérieures et en reconstituant l'ensemble.
Et à ce stade, on s'est rendu compte que beaucoup de plâtre employé par les restaurateurs précédents avait recouvert les fragments et devenu absolument indispensable de retirer ce plâtre pour poursuivre le traitement.
Alors, tous les plombs des invités autour de la table ont sauté à cause de ce petit bruit de fraise un peu aigu. Ce qui est intéressant dans cette archive du CNRS Image, c'est ce qu'on vient d'entendre à l'instant, Didier Durand, et peut-être vous tous aussi, Laurence de Vigry et Pierre Curie, c'est aussi vrai dans la peinture, c'est que faire un travail de restauration, c'est aussi parfois défaire les restaurations antérieures.
C'est ce qu'on appelle effectivement pour nous la dérestauration. Donc on commence effectivement à faire la dérestauration. Avec...
Quand vous dites parfois, c'est presque toujours.
Oui, presque toujours, d'accord.
D'essayer de comprendre. Alors, il y a des dérestaurations qui sont admissibles et d'autres qui, malheureusement, n'ont plus rien à voir avec la réalité, ce qui a été complètement un véritable massacre. Aujourd'hui, on a par chance, parce qu'on avait quand même, des compagnons et même des architectes pour le bâtiment, soucieux, et on arrive à retirer les différentes couches. Pour revenir sur les différentes techniques, on a des techniques, on a entendu parler par exemple, ce ne serait-ce que pour le nettoyage, il y avait de l'eau, le ruissellement, ensuite avec la pression. Aujourd'hui, nous avons différentes techniques et il est important de faire des essais, mais aussi des essais en laboratoire. Le fameux peeling que nos chères et tendres épouses prennent pour se faire un joli visage.
Certains messieurs aussi, d'ailleurs.
Vous avez raison, j'en fais un de temps en temps. Voilà,
mais de temps en temps.
D'où cette bonne mine, Didier Durand.
Mais on arrive effectivement à mettre ce peeling, de pouvoir retirer, et on récupère effectivement tous les petits points noirs que nous avons
sur la pierre.
On faisait de
la médecine tout à l'heure. On est passé chez le dentiste il y a 2 minutes. On est en dermato maintenant. Pierre Curie, non, sur cette dérestauration, c'est important. C'est-à-dire parce que la conception de la restauration n'était pas la même il y a un siècle et demi, 2 siècles, où les artistes s'autorisaient à compléter,
à leur méthode. D'ailleurs un petit peu la différence sémantique que je ferais entre le terme rénovation et restauration. Si vous avez un mur qui a 10 couches de peinture, si vous dégagez les 9 couches de peinture, vous restaurez la première. En revanche, si vous faites un sondage pour retrouver la couleur originale et que vous reprenez la même couleur et que vous reposez une 11e couche de peinture, c'est plutôt une rénovation. Le terme peut être utilisé d'ailleurs ponctuellement à l'intérieur d'une restauration d'un bâtiment. La restauration du bâti, je ne sais pas si vous êtes d'accord, va comporter un certain nombre de rénovations de la charpente, du mur, etc. La restauration, normalement, enfin dans l'acception, disons, dans le domaine des beaux-arts, peinture et sculpture essentiellement, distingue justement les matériaux originaux des matériaux d'intervention, pour que on puisse revenir, pour faciliter en fait la réversibilité des interventions d'aujourd'hui, pour que les matériaux soient bien distincts, ce qui n'est pas tout à fait la même chose dans le domaine du bâtiment.
Didier Durand.
Alors effectivement, dans le domaine du bâtiment, malheureusement, nous avons eu sur une période 1930-1940 où nous avons eu du silicate qui a été positionné sur les façades pour pouvoir les conserver. Là encore, nous avions eu ce que j'appelle de bons marchands de produits qui ont réussi à vendre ce silicate.
Et le silicate, précise-nous ce que c'est.
C'est tout simplement pour pouvoir consolider la pierre, et on était encore dans un produit miracle qui est très très noirâtre et qui pénètre et qui malheureusement ne fait pas respirer la pierre. Mmh. Et aujourd'hui, le fait de le retirer, on est dans l'obligation, même pas chimiquement, il faudrait presque le retirer mécaniquement, et ensuite il faut traiter la pierre. Donc la grande question que nous nous posons, et que nous avons malheureusement trouvé la solution, c'est de maintenir le silicate, parce que on ferait beaucoup plus de mal. Là aussi, c'est je vous opère, je vous retire la peau, et je vous refais une autre greffe de peau, ça va pas le faire non plus. Oui, donc il faut trouver effectivement un juste milieu. Malheureusement, il y a eu quelques erreurs de fait. Vous n'étiez pas là. Je ne vous accuse pas, mais les scientifiques n'étaient pas là ce jour-là.
Malheureusement, nous en faisons certainement aujourd'hui.
Beaucoup moins.
La passerelle est idéale. Effectivement, on se pose parfois aussi la question, et je m'adresse à vous, Pierre Curie, mais aussi à vous, Laurence de Vigry, des limites de la restauration, notamment d'une œuvre. On sait que pour la restauration de la Sainte-Anne de Léonard de Vinci, certaines voix se sont élevées en disant « on est allé trop loin, on a gratté trop loin ». Ça n'était pas l'œuvre originelle, on a perdu quelque chose à la restauration. À quel moment on s'arrête de gratter? À quel moment on s'arrête de restaurer? Et quel est le sens aujourd'hui de revoir une peinture dans l'état juste 2 minutes après la pose de la dernière couche, ou 10 ans, 15 ans avec la patine qui participe de la notion d'œuvre d'art, Pierre Curie?
Alors, la restauration est éminemment subjective. Quand la Sainte-Anne du musée du Louvre de Léonard de Vinci a été amincie, quand ces vernis ont été traités et amincis, on a eu toutes les opinions, je dirais, entre ceux qui, dans la commission scientifique, qui ne voulaient pratiquement rien faire, juste un petit décrassage, jusqu'à certains membres de la commission qui seraient allés encore beaucoup plus loin. D'après les mesures qu'on a faites sur le travail de Cinzia Pasquali, on est arrivé à une moyenne environ 12 microns à 24 microns de la couche picturale originale. C'est-à-dire que on a laissé partout au moins 12 microns de vernis. Quand je dis vernis, il s'agit pas de vernis ancien, de vernis original, il s'agit de vernis ancien. Les tableaux, au cours des siècles, ont été très souvent revernis et repeints et revernis et repeints, avec à chaque fois un nouveau mélange par la force des solvants de tous ces vernis qui se sont entremêlés en quelque sorte et qui font non pas une succession de strates très très nettes, mais plutôt une espèce de
d'amalgame,
voilà, d'amalgame très 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 compliqué. À aucun moment la restauration n'a touché la couche originale de la peinture de Léonard. Cependant, on a profondément modifié l'image de l'œuvre. Mmh. Et c'est là que
La réapparition des couleurs est spectaculaire. Hein.
Voilà, il y a eu une réaction, je dirais, sentimentale, mmh. avec cette impression qu'on avait repeint quasiment mmh. le bleu de la pisse.
J'engage les auditeurs qui n'ont pas vu le avant-après à les regarder sur Internet, où on le mettra sur le site de la méthode scientifique. C'est très spectaculaire. Laurence de Vigry, quand on est scientifique, effectivement, quelle est la limite? À quel moment le panneau stop s'affiche, ou est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on a envie d'aller toujours un cran, une couche plus loin?
Je voulais effectivement compléter juste d'un point de vue très un peu technique par rapport aux craintes qu'il y avait pour la restauration de ces œuvres. C'est qu'effectivement, Léonard de Vinci utilise des couches de glacis, des couches très fines qui sur les visages pour rendre les ombres, par exemple, et qui participent complètement de sa technique et des effets impressionnants qu'on voit sur ces œuvres. Et en fait, la crainte, c'est effectivement, en allégeant le vernis, en utilisant des solvants, d'aller un peu trop loin, d'utiliser les mêmes solvants qui toucheraient la couche picturale et qui retireraient aussi une partie de ces glacis. D'où l'importance, effectivement, de vérifier qu'il y a toujours une couche protectrice de vernis qui reste sur l'œuvre et qui empêche qu'on altère vraiment ce qui fait la technique de Léonard de Vinci. Mmh. On n'aura pas du tout les mêmes craintes sur d'autres œuvres qui sont moins sensibles.
Sur la question à proprement parler de l'encadrement d'un processus de restauration, qu'est-ce qui décide, quel est le marqueur final de se dire nous sommes arrivés à une étape à partir de laquelle nous n'irons pas plus loin au risque d'endommager, en dehors de Léonard de Vinci?
Le comité scientifique en France, en tout cas dans la tradition française, il est consultatif, il donne un conseil. Le décideur, c'est le conservateur, c'est donc le représentant du propriétaire en quelque sorte, et en l'occurrence là par exemple c'était le département des peintures du Louvre, le chef du département des peintures du Louvre.
Et Laurence de Vigry, les scientifiques ont leur mot à dire là-dessus? Ou vous contentez d'exécuter une décision de conservation?
En fait, on intervient plus sur le processus avant, c'est-à-dire pour la préparation de la restauration. On peut conseiller au cours de la restauration, mais on ne donne pas d'ordre au moment de la restauration. C'est vraiment le point de vue du conservateur et du restaurateur.
Et pour nous, par exemple, les vitraux de la Sainte-Chapelle, il y a eu, par moments, ils ont été recouverts de noir, de fumée, pour assombrir, parce que tout dépend des périodes. Ensuite, de se dire, est-ce qu'on doit revenir à une période du 18e? Est-ce qu'on doit revenir à une période du 19e? C'est tout le curseur qui doit être mis en place. C'est des décisions qui sont prises de par les conservateurs, qui sont prises par les architectes, et on doit trouver le juste milieu.
J'aurais une toute dernière question avant de passer à la bibliothèque scientifique. Ce qui est intéressant aussi, puisqu'on a parlé de restauration et de conservation, c'est que tous ces nouveaux instruments dont on a parlé, pour notamment pour l'analyse des peintures et des toiles, ça nous donne aussi des indications historiques à proprement parler. Vous évoquiez le sfumato de Léonard de Vinci. Grâce à une analyse extrêmement fine, on arrive à mieux comprendre le geste artistique, le geste technique en quelque sorte, Laurence de Vigry.
Oui, exactement. C'est ce qu'on va aussi rechercher en étudiant un artiste ou un ensemble d'œuvres. C'est vraiment la façon dont le peintre a obtenu les effets, a obtenu les couleurs. Donc non seulement la composition, mais son geste, la façon de préparer la peinture, etc.
Pierre Curie, là-dessus, ça nous a permis de vraiment de mieux connaître
par exemple, l'histoire de l'art. Pour le cas de Léonard et sa Sainte-Anne, on a vraiment compris comment il avait construit le grand manteau bleu de la Vierge, sur la préparation blanche, d'abord des couches de laque rouge, c'est très surprenant, un rouge extrêmement vif, mais une laque un peu fragile, et sur laquelle il a posé deux couches de lapis lazuli d'un bleu très précieux et très très beau, mais qui sur certaines zones de la laque fragile est tombée. Donc on a compris la technique et l'altération de la technique.
Et pour autant, le sfumato reste un mystère malgré les avancées de la science.
Je sais pas. Il y a toujours de toute façon dans tout acte artistique une part de mystère, que ça soit chez Léonard ou chez Rembrandt ou chez Titien ou chez Velázquez ou Rubens. Il y a heureusement une part qui est irréductible à l'étude scientifique.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Et à 16h53, nous allons quitter le musée pour rentrer dans l'univers très feutré de la Bibliothèque des sciences. Comme chaque jeudi, un ou une scientifique va nous lire et commenter l'extrait d'un ouvrage scientifique qui a marqué sa carrière de l'Antiquité à l'époque contemporaine. On peut aller de Lucrèce jusqu'à Benoît Mandelbrot. Aujourd'hui, c'est le généticien Axel Kahn qui nous fait pénétrer sa bibliothèque intime.
La Bibliothèque des sciences.
Je vais lire un passage de l'introduction de La Malmesure de l'Homme, un livre fondateur, essentiel, de l'évolutionniste, biologiste, anthropologue, Stephen Jay Gould. Les citoyens de la République devaient, selon Socrate, être élevés et classés d'après leur mérite en trois classes. Les dirigeants, les auxiliaires et les artisans. Une société stable exige que ces rangs soient respectés et que les citoyens acceptent le statut qui leur a été attribué. Mais comment s'assurer de cet accord ? Socrate, dans l'incapacité d'avancer un raisonnement logique, invente un mythe. Les propos de Glaucon était prophétique, nous dit Socrate. C'est la même histoire colportée sous des versions différentes à laquelle on croit depuis. La justification de la classification des groupes suivant leur mérite a changé selon les courants de l'histoire occidentale. Platon s'est appuyé sur la dialectique, l'Église sur le dogme. Depuis deux siècles, ce sont les thèses scientifiques qui jouent le rôle principal dans la survie du mythe de Platon. Ce livre, La Malmesure de l'Homme, traite de la version scientifique du récit de Platon. On peut en résumer la philosophie générale sous le terme de déterminisme biologique. Selon cette doctrine, les normes de comportement des groupes humains et les différences économiques et sociales entre eux, en premier lieu les races, les classes et les sexes, sont issus de distinctions héritées, innées, et la société en ce sens est bien le reflet exact de la biologie. Ce livre présente, dans une perspective historique, un des thèmes principaux du déterminisme biologique. L'estimation de la valeur des individus et des groupes par mesure de l'intelligence en tant qu'entité séparée et quantifiable. L'argument de base de cette théorie ne s'est pas modifié. Les rôles sociaux et économiques reflètent exactement la construction innée des individus. Un aspect de la stratégie intellectuelle a changé, cependant. Socrate savait, lui, qu'il mentait. Et ce que sous-entend Stephen Jay Gould, c'est que nous ne le savons pas toujours. Dès la publication du livre de Darwin en 1859, fondant la théorie de l'évolution, puis ensuite, dès que la génétique a précisé les mécanismes de cette évolution, son application aux groupes humains s'est posée. Et cela a été à la base de l'eugénisme, du racisme biologique, avec toutes les conséquences horribles que l'on connaît au XXe siècle, et cela n'est pas totalement terminé. Stephen Jay Gould a écrit ce livre, La Malmesure de l'Homme, pour démonter ce qu'il y a d'idéologique dans beaucoup de ses thèses. En ce sens, il s'agit vraiment d'un livre essentiel pour tous ceux qui s'intéressent au déterminisme génétique des qualités mentales et sociales des humains.
C'était la Bibliothèque des sciences d'Axel Kahn. Merci beaucoup à nos trois invités d'avoir été autour de la table de la méthode scientifique. Laurence de Vigry, Didier Durand et Pierre Curie. Dites-nous un peu les actualités du musée Jacques-Marandré.
Alors l'actualité du musée Jacques-Marandré, c'est une belle exposition Rembrandt qui ouvre demain. Et une autre actualité qui concerne notre sujet d'aujourd'hui, un numéro de la Revue de l'Art consacré à la restauration, entièrement à la restauration, qui sortira en décembre.
Et Et n'oubliez pas non plus, puisque ce sont les Journées du Patrimoine ce week-end, de venir visiter la Maison de la Radio, même si elle est en restauration en ce moment.
Il y a les compagnons.
Il y a les compagnons qui sont ici. Tout le programme sur le site maisondelaradio.fr. Merci beaucoup à toute l'équipe de la méthode scientifique. Léo Quentin, Céline Lozen, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Ève Etienne. À la réalisation, Elisabeth Miro. À la technique, Bruno Gagnard-Fontani. Et au droit d'auteur, Julie Guéroux. Demain, comme un vendredi sur deux, table ronde sur l'actualité des sciences et de la recherche. On y parlera entre autres des scandales de fraude qui agitent le CNRS et du trucage des résultats dans la course aux publications, ainsi que de la course de super lanceurs spatiaux avec nos confrères de la presse et du web scientifique. Dans un tout petit instant, dernière dose de LSD, 4 par semaine, c'est suffisant, pas plus. Dernier épisode de la série documentaire de Perrine Carvran consacrée aux migrants. Nous, on se retrouve demain à 16h.